Vous écoutez
RMC.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Perico Légas.
Bonjour Mathieu, bonjour Anaïs.
Nous allons nous faire plaisir avec Anaïs, avec vous tous ce matin. Un petit coup de rosé
avec modération.
Évidemment. Pourquoi le rosé aujourd'hui Perico? Parce que c'est un peu le coup d'envoi de la saison. Les beaux jours vont arriver, on l'espère. Les ponts du mois de mai, les apéros et donc le rosé.
C'est le vin des vacances, c'est le vin de la belle saison, c'est le vin des beaux jours. J'allais dire c'est le vin de saison. On peut en boire toute l'année. Mais j'aime le rosé parce qu'il annonce justement il y a un peu de soleil et c'est un vin qui contient du soleil. Alors, lorsque Marianne fut créée en 1997
avec
votre journal, je suis journaliste gastronomique, je ne suis pas un grand journaliste du vin comme il y en a qui sont spécialisés, je m'étais permis de dire que dans le rosé, il y avait des grands crus. C'est-à-dire c'est un vin qui est à sa noblesse, et quand il est bien fait, parce qu'il peut être mal fait aussi, c'est un vin qui mérite toutes les estimes. Je m'étais fait un peu taper sur les doigts en disant,
ah bon,
tu te mêles, ouais, le rosé, c'est jamais qu'un gentil vin, ça sera jamais aussi grand qu'un très grand blanc ou qu'un très grand rouge.
Depuis, vous étiez visionnaire.
J'étais visionnaire, voilà. Et en plus, voilà, depuis, les choses ont évolué. Ces mêmes confrères ont reconnu qu'effectivement, de la façon dont on l'approche. Et je vais vous dire pourquoi c'est un très grand vin. Parce que moi, je suis passionné de vin, j'ai côtoyé des vignerons. Pour qu'il soit bon, c'est le vin le plus difficile à faire. Le plus facile à rater, le plus difficile à faire. Mais quand il est bien fait, c'est un grand vin. Un grand vin, c'est quoi? C'est ce qui vous donne du bonheur, du plaisir. Voilà. Eh bien, un grand rosé, quand il est vinifié dans les règles de l'art, en respectant tous les paramètres du terroir, de la saison, de la vigne, ça peut être quelque chose d'absolument sublime. On le voit bien à table, quand on est sur la Côte d'Azur, ou sur la Méditerranée, ou ailleurs, parce qu'il y a du rosé partout en France, il y en a même en Alsace, dans le Val-de-Loire.
En Anjou.
On a un très grand moment de table et de gastronomie, donc respect pour le rosé quand il est bien vinifié.
Et les consommateurs apprécient, puisque désormais, une bouteille sur trois, je dis bien une sur trois vendus en supermarché est une bouteille de rosé.
C'est un marché croissant, un peu trop, je commence à m'en inquiéter. Du coup, il y a une petite inflation, puisqu'il y a du succès, il y a beaucoup de demandes, donc flore fragmentée, et les domaines viticoles qui avaient la cote au début, mais qui restaient dans des tarifications, j'allais dire, acceptables, pour certains domaines, en Provence notamment, on atteint des sommes quelquefois 20, 30, 40, 50 euros la bouteille. Je respecte, mais attention, c'est jamais que du vin, c'est pas parce que c'est du rosé, hein. Voilà, mais il y a eu une petite surenchère à cause de la notoriété et de l'engouement qu'entraîne le rosé. Il y a des domaines qui sont allés, parce qu'il y a des étiquettes prestigieuses justifiées, qui sont un petit plus loin. Ça, c'est un aspect un peu négatif. Ça reste aujourd'hui, dans certains cas de figure, pour une appellation comme Bandol, ça fait partie des grands vins de France. Et en Provence en général, dans ce grand, parce que c'est quand même là, c'est le terroir des rosés. Il y en a partout ailleurs. Là, je crois qu'on va recevoir.
C'est le berceau.
Voilà. Et voilà. Et on a quelqu'un qui vient de.
Eh ben, allons-y. Allons-y tout de suite.
Pour moi, une référence absolue.
En Provence, Philippe Bru est avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Directeur œnologue du domaine Château Vignelors en Provence. Philippe Bru, merci d'être avec nous.
Dans le Var.
Dans le Var. La grêle, d'ailleurs, les intempéries de ces derniers jours ont eu des conséquences sur votre vignoble?
Nous, ça a été le gel. On a eu un gros épisode de gel le 18 avril et oui, on a de très gros dégâts.
Ouais, 56 gros dégâts. Hectares de vignes chez vous en bio, hein, c'est ça, Philippe Bru? Ça veut dire que la récolte va être déjà compliquée?
Elle est compromise, ouais, sur les volumes déjà, ça c'est sûr. Il va y avoir une autre sortie de bourgeons après ce gel, mais qui sera beaucoup moins fructifère. Et oui, en volume, c'est sûr qu'il y a un impact.
Ce qui veut dire que pour le rosé de l'année prochaine, il y aura peut-être aussi une conséquence sur les prix.
On n'est pas en Bourgogne, donc on va être très sage.
Allez hop, ça c'est fait.
Merci pour la précision, c'est important.
Il y aura baisse de volume, mais on sait que le marché n'est pas prêt à absorber aujourd'hui des hausses de prix significatives. Donc il faudra trouver d'autres solutions qu'augmenter les prix de façon trop importante. Un peu sûrement, mais beaucoup je pense pas.
Sur les prix, Perico disait, c'est vrai que à mesure qu'il y a une certaine popularité de votre vin rosé, c'est un peu tiré vers le haut. Vous confirmez, Philippe Bru, vous en profitez de ce succès naissant?
Bien sûr, hein, c'est un succès économique. Hein, le rosé en Provence, c'est 90% des volumes vinifiés. Et certains font 100% de rosé. Vignelors, on fait une grosse moitié de rosé, mais pas que du rosé. Mais c'est un succès économique, oui, avec des prix qui sont envolés chez certains. Et nous, notre haut de gamme, il est à 17 euros. Et l'entrée de gamme à 9 euros. Voilà.
Ça reste, donc, ça reste
de 9 à 17 euros la bouteille. Mais Anaïs Castagna, il y a une autre explication aussi à l'envolée de ces prix. C'est qu'on a maintenant des stars qui investissent dans le rosé.
Et non des moindres. Ça fait déjà quelques années qu'Hollywood et ses stars sont partis à la conquête de la Provence. Brad Pitt a acquis le château de Miraval avec Angelina Jolie en 2008. Domaine estimé à 500 millions de dollars. Est-ce que vous savez qui est le voisin de Brad Pitt? George Lucas.
Non, c'est vrai.
Le réalisateur de la saga Star Wars qui a exploité déjà des vignes en Californie. Il s'est offert il y a quelques années le domaine de Château Marguis juste à côté de Miraval. Un autre, George, a rejoint la liste des stars américaines ayant investi dans la production de vin en Provence. George Clooney. Qui ne devrait pas tarder à dévoiler son rosé produit dans son domaine de Cannadelle. Et puis je peux aussi citer Ridley Scott, John Malkovich ou encore Tony Parker.
Vous voyez, l'engouement. En plus, c'est vraiment c'est le vin hollywoodien parce que le rosé, c'est un peu un vin. J'allais dire, il fait rêver comme au cinéma, mais on a des personnalités françaises. Pierre Richard, Jean-Louis Trintignant avaient aussi leur vignoble. Voilà. Donc.
C'est l'attachement à la région
oui,
aussi.
Alors, Vignelor fait partie des pionniers. Le monsieur s'appelait Georges Brunet, il était propriétaire du château La Lagune, qui est un grand cru du Médoc. Le Vignelor s'appelait le château Saint-Estève en Provence, et c'est lui qui, dans les années 60, a compris qu'il fallait sortir de ce rosé bas de gamme que les vignerons produisaient, et c'est vraiment le rosé des touristes, voyez, qu'on vendait en vrac. Et Georges Brunet a compris qu'on pouvait faire avec ses crus, avec ce terroir, avec ses cépages, que peut mettre le Grenache, le Cinsault, le Mourvèdre, enfin tous ces cépages rouges qui... J'expliquerai en deux mots ce qu'est le rosé ensuite, voilà. Et il lance Vignelor par rapport à l'héroïne de Pétrarque, qui fait Vignelor, qui a été le premier, la référence de la preuve qu'on pouvait en Provence, sur ce terroir de Provence ensoleillé, avoir un vin rosé qui atteignait des sommets qualitatifs et de la noblesse. Voilà, donc merci à Vignelor. Ensuite, il a été suivi par beaucoup d'autres maisons, mais c'est un des premiers à avoir montré la voie du grand rosé.
Et voilà comment le rosé est devenu un grand vin.
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
Maintenant, on veut savoir comment en choisir un bon et surtout comment il se fait. Je reviens vers Philippe Bru, parce que c'est vous qui êtes directement les mains dans le cambouis, j'allais dire, Philippe Bru. Le rosé, comment on le fabrique? Comment ça s'obtient? Et expliquez-nous aussi les différentes teintes.
Alors,
de rosé.
Ça se fabrique pas, Mathieu.
Surtout, oui.
Comment ça se vinifie? Comment ça s'élabore?
Pardon.
On n'est pas encore en usine. Non, mais je vous reprends parce que c'est comme le terme général. Voilà.
Comment le produisez-vous, Philippe Bru?
Bon, c'est assez technique, mais en fait, on fait un vin blanc avec des raisins noirs. Hein. Et après, on va extraire plus ou moins de couleurs au moment du pressurage ou de la macération pour avoir un rosé plus ou moins clair. Mais techniquement, c'est un vin blanc fait avec des raisins noirs. Et on va jouer sur la couleur.
Donc finalement,
la définition est la bonne. Le vin rosé, c'est du rouge vinifié en blanc. Ce sont des raisins noirs ou des raisins rouges.
Voilà.
Et au lieu de les laisser macérer plusieurs jours pour obtenir le vin rouge, puisque c'est le fait que la pulpe soit en contact avec la peau, c'est-à-dire les anthocyanes qui donnent la couleur, et plus vous laissez macérer, plus vous allez avoir un vin structuré, un vin charnu. Mais par contre, si vous n'extrayez que la couleur naturelle de la pulpe, de la peau du raisin au moment où vous le pressez, donc ce que dit Monsieur Bru, quelques minutes. Vous avez un pressurage direct. Donc là, vous avez un rosé très clair. Il a juste la teinte naturelle de la peau du raisin selon la variété. Et si vous laissez quelques heures, et ben, vous accélérez, vous intensifiez la teinte. Et vous allez avec un petit peu plus, vous allez sur du Tavel avec du rosé très poussé.
Et donc, on peut choisir la couleur.
Ah ben, le vigneron, et c'est tout l'art, c'est toute l'alchimie. Il connaît, selon le millésime, selon la maturité de ses raisins, est-ce que là, je vais laisser 4 heures, 6 heures, 12 heures, 8 heures, selon le style, ce qu'on appelle le style pétale de rose, qui est une dénomination. Alors voilà, et vous avez certains rosés, moi-même je les ai confondus avec des blancs tellement ils étaient peu teintés.
Philippe Bru, c'est vrai ça que de plus en plus, vous producteurs, vous allez vers des teintes très claires parce que c'est ce qui plaît aux consommateurs?
Ben déjà le style rosé Provence, qu'on parlait tout à l'heure au Tavel, le Provence il doit être clair. Vous faites un rosé foncé en Provence, être compliqué à vendre, à moins que vous faites un tout petit volume et un vin de niche. Donc oui, le public veut du clair, du pâle, et on s'attache à respecter ce style Provence. Oui.
Et est-ce que parce qu'il est pâle, il a moins de goût, il est moins bon, il y a une moins bonne qualité, oui ou non?
Non. Techniquement, c'est pointu, c'est compliqué à maîtriser cette couleur. Donc on va jouer sur les cépages. Grenache et Cinsault sont des cépages peu colorés, donc c'est plus facile à faire du clair. Après, Syrah, Cabernet Sauvignon, c'est déjà plus compliqué. Donc on va faire le voie jouer sur l'assemblage. Il peut aussi utiliser des raisins blancs vinifiés avec les raisins noirs pour aussi jouer un peu sur la baisse de couleur.
Voilà, plus le rosé est pâle, alors c'est là, c'est l'alchimie, c'est le talent, c'est, j'allais dire, c'est le génie du vigneron. Qu'est-ce qu'on recherche dans le rosé ? On recherche la fraîcheur, le fruit, l'arôme. Un grand rosé, vous avez l'impression de mordre dans la grappe de raisin. Vous êtes dans la vigne, vous mordez dans le fruit, et vous avez alors ensuite ce panel aromatique merveilleux qui est celui de la saison, qui est celui de la Provence ou l'Andromès. Vous pouvez être à Sancerre en Alsace, vous avez le même panel aromatique qui vient de la rencontre entre ce cépage et ce terroir. Et plus, j'allais dire, le vin est clair, plus il est pâle, plus il vous donne quelque chose de pur, de subtil, de précis, d'élégant et d'harmonieux. Si vous allez un peu plus dans la macération, vous allez voir quelque chose de plus solide, de plus capiteux, de plus puissant. Vous allez perdre de la finesse, vous allez gagner en intensité. Et le grand génie des rosés pâles, qui sont très difficiles à faire pour qu'ils soient, c'est l'équilibre. L'équilibre entre justement, il y a forcément un petit peu de puissance alcoolique, il faut qu'il y ait un petit peu de personnalité, mais la subtilité du fruit, comment on peut extraire la quintessence d'un cépage et avoir cet équilibre arachnéen. Voilà. Alors, attention, il y a eu une polémique à un moment donné, pourquoi il faut défendre le rosé. Monsieur Barroso, il y a une quinzaine d'années, avait proposé qu'on fasse du rosé en Europe en mélangeant du blanc et des rouges.
Ah ben voilà.
Le seul endroit où c'est autorisé, c'est en Champagne. On met un peu de vin rouge dans le vin blanc et on a, même si on peut faire du champagne rosé en direct, voilà. Et beaucoup de trafiquants européens ou négociants trafiquants ont fait très longtemps, d'où la mauvaise réputation du rosé, ont fait un rosé qui était du vin blanc avec lequel on mettait du rouge. Ça, c'est interdit. Et en Provence, bien entendu, qui est le terroir emblématique, on fait des vrais rosés. Alors, il y a deux façons. Vous avez soit le pressurage, vous pressez votre raisin rouge, il arrive dans la cuve directement avec sa teinte, soit vous faites une saignée, c'est-à-dire que vous prenez une cuvée destinée à faire du vin rouge et vous prélevez pendant les premières heures avant qu'il devienne rouge, vous le prélevez au moment où il est de couleur rosée. C'est ce qu'on appelle une saignée. C'est très bien, c'est pas la pureté absolue du pressurage direct, mais on a très grand rosé avec du rosé de saignée.
Pour savoir qu'on achète du bon, côté prix 5 euros minimum, on est d'accord Perico, très vite ?
Oui, oui.
En dessous, c'est pas bon.
Il y a un risque.
Très clairement.
Il y a un risque.
Et avant de se quitter, quand même, cette question, parce que c'est la mode de servir des rosés piscines avec plein de glaçons. Comment on sert un bon rosé ? Pas trop glacé et sans glaçons.
Alors, c'est pas grave s'il est trop frais, il se réchauffera dans le verre de toutes les façons.
Bon.
Alors, je donne toujours le secret. On dit toujours pas de congélateur. Si vous surveillez le congélateur, c'est un seau à glace. Mais vous restez devant. Vous le laissez 10 minutes, 15 minutes pour voir la température. Si vous l'oubliez, il gèle dedans. C'est fichu. Sinon, le seau à glace, c'est merveilleux. Le rosé doit être bu frais l'été. Alors, sous la tonnelle, près de la piscine, pour ceux qui ont une piscine. Alors, j'ai même vu des vignerons mettre le glaçon dedans. Voilà. Ça, c'est quand même un viol. Passez-moi l'expression. Donc, il faut que le rosé soit frais. La fraîche fraîcheur du vin lui-même et une température qui vous donne du bonheur et de la fraîcheur dans la bouche.
Philippe Brud, un mot, vous confirmez ?
Oui, il faut que ce soit servi frais. Plus il est concentré, plus il est destiné à la table, moins il doit être bu glacé, hein, pour respecter les arômes.
À glacer, jamais. Voilà. Voilà. Alors, on va dire la température, entre 10 et 12 degrés. Voilà.
Et ben voilà, comme vous, Perico. Voilà. Philippe Brud, directeur et œnologue du domaine Château Vignelor en Provence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Perico. Le rosé, c'est vrai que c'est le coup d'envoi des ponts. D'ailleurs, le week-end prochain, on parlera de l'apéro. Comment réussir un bon apéro ?
Le rituel, sacro-saint rituel de l'apéro.
Et ben, bonne semaine. D'ici là, on vous retrouve, Perico, dès demain dans Estelle Midi, midi 15h.
Le beurre et l'argent du beurre à retrouver en podcast sur l'appli.